Il est 6h45 sur France Culture.
Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Bonjour Thierry Garcin.
Et rebonjour Émilie Chauvet.
Quelle importance accordée au sommet du G7 ?
Voilà, d'un sommet à l'autre, puisqu'hier nous avions parlé du sommet de l'Alliance Atlantique, pour ceux qui n'avaient pas pu l'écouter. Et notre invité aujourd'hui, Xavier Timbaud, bonjour.
Bonjour.
Alors, donc, vous êtes économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Nos auditeurs vous connaissent bien à France Culture. Le président Obama parlait de la question des G, c'est-à-dire qu'effectivement, le système international a consommé depuis des décennies beaucoup de G. G5, G13, plus l'Égypte, ça faisait G14, G20. Il y en aura un G20, d'ailleurs, au début du mois de juillet. Et précisément, G7, qui avait débuté par un G6 sans le Canada, en 1975, sous impulsion française. Et donc il se réunit aujourd'hui, mais sans la Russie depuis l'annexion de la Crimée par Moscou en 2014, il se réunit en Sicile. Alors, est-ce qu'on peut revenir juste d'un mot sur, au fond, cette dynamique du G7 ?
Oui, la dynamique de ces sommets, de ces grands sommets, elle est d'avoir des instances informelles, c'est-à-dire que c'est pas l'ONU, il n'y a pas des droits de vote, il n'y a pas... des représentants, il n'y a pas des pays qui sont membres de droit, il n'y a pas de comité de sécurité, mais c'est informel, mais en même temps c'est là pour faire avancer les dossiers diplomatiques, économiques. C'est des réunions qui ont une assez grande importance, une assez grande efficacité en fait. Elles l'ont montré par le passé, elles l'ont montré dans la crise. La question évidemment c'est la légitimité du périmètre. Le G7 c'est un périmètre assez réduit, il n'y a pas la Russie, il n'y a pas les autres pays, donc c'est pas le G20 qui a été une instance qui aurait pu prendre le pas sur le G7. Donc c'est un périmètre réduit, mais ça reste quand même des moments assez importants en matière de diplomatie.
Et puis il faut rappeler d'ailleurs que le G20, comme d'autres G, souvent invite un certain nombre de pays à la demande, comme ça, et se réunit à G25, G26 souvent. Alors on revient au G7, ce qui est tout à fait frappant, c'est la liste à la Prévert des domaines qu'il traite, c'est-à-dire ça peut aller du terrorisme au climat, en passant par de temps en temps l'économie quand même, et c'est qui, encore une fois, qui trop embrasse, on a du mal à caractériser vraiment l'ordre du jour du G7 depuis plusieurs années.
Oui, parce qu'il n'y a pas de suivi dans un ordre du jour. C'est finalement un ordre du jour assez opportuniste. Mais c'est pas parce que l'ordre du jour est opportuniste, encore une fois, que les sommets sont inefficaces. Il y a beaucoup de choses qui sont décidées en fait dans ces sommets. Ils sont importants parce que c'est un moment de rencontre et c'est un moment de rencontre multilatérale. Donc c'est souvent le moment de faire preuve d'une volonté ou d'un accord et d'arriver à avancer sur un certain nombre de sujets. On se rappelle par exemple pendant la crise de 2008, les sujets économiques qui sont pas normalement au centre des sujets des G avaient été abordés, et les G20 ont pendant la crise économique entre 2008 et 2012 joué un rôle très important dans la coordination des grands États et des grandes puissances économiques.
Et comme vous le disiez, d'ailleurs, le G20, justement, associait ou incluait la Russie, la Chine, un certain nombre de pays émergents, ou escalités ou à la demande. Donc c'était quelque chose. D'ailleurs, le G20 et le G7, souvent, chevauchent leur propre domaine de compétences, notamment en matière économique. Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'aujourd'hui, compte tenu de la nouvelle présidence américaine et de ses options sur le libre-échange, en tout cas sur le libre-échange multilatéral, parce que le libre-échange bilatéral ça intéresse beaucoup les États-Unis. Est-ce que vous avez l'impression qu'on va parler de ce libre-échange alors qu'il y a un G20 dans, je crois, vers le 7 ou 8 juillet, si mes souvenirs sont bons?
Alors, c'est là peut-être tout l'enjeu de ce G7 par rapport aux années précédentes. En fait, tout l'enjeu, il est autour de Donald Trump et de la politique étrangère dans quelques domaines que ce soit dans le domaine de la sécurité, dans le domaine du climat ou dans le domaine du commerce. La politique étrangère des États-Unis. Et donc, le fait que le G7, finalement, ait une relative importance sur ces questions, c'est déjà l'influence de Donald Trump. C'est-à-dire, ce refus du multilatéralisme, c'est ce refus de discuter avec tout le monde en même temps, et le fait d'essayer de discuter avec des groupes de pays en fonction des intérêts qu'on a avec eux pour être non plus dans une logique universaliste, celle qui est un peu l'esprit des institutions de Bretton Woods, mais beaucoup plus dans une logique utilitariste qui est aujourd'hui la logique des États-Unis. Donc le G7 et l'importance qu'il a est presque déjà en soi un signe de la réussite de Donald Trump pour déplacer les sujets dans le sens des intérêts des États-Unis.
Est-ce que ce n'a pas non plus un côté, ce G7, un peu club, on va dire, de pays riches et en plus occidentaux, puisque d'une certaine façon, la Russie a perdu sa place, c'est-à-dire que ça limite les débats en même temps?
Ah, tout à fait, c'est le G7, c'est la vieille configuration, et c'est même une configuration qui nous ramène avant les années 70, puisque c'est la configuration du plus fort de la guerre froide, celle dans laquelle uniquement les pays occidentaux se parlent entre eux, savoir si le Canada est là ou pas, en fait c'est assez marginal. La vraie question, c'est qu'il n'y a pas la Russie, il n'y a pas l'Inde, il n'y a pas la Chine. Donc ça, c'est déjà trois absents de marque, et donc ça veut dire que on va discuter dans un club effectivement assez fermé entre pays développés qui vont probablement essayer de s'entendre, en tout cas c'est ce que vont pouvoir penser les autres pays de la planète, essayer de s'entendre plutôt sur leur bout, sur des questions qui les concernent tout à fait directement, puisque ce seront principalement les questions de commerce et les questions de climat.
Oui, alors effectivement, alors il y a quand même aussi une chose qui n'est pas bonne, mais c'était la même chose souvent pour le G20, et on ne peut pas dire que du mal de ces G, bien sûr, ils ont leur utilité, c'est le fait qu'ils se bunkerisent, c'est une image quand même tout à fait détestable des discussions au sommet, puisque par construction, là où ils vont se réunir aujourd'hui et demain, ils sont en altitude, si j'ose dire, enfermés dans leur propre G, et c'est quand même une image assez négative de l'économie mondiale.
Ah oui, tout à fait, parce qu'effectivement, c'est pas simplement une rencontre de chefs d'État, il y a tout un ensemble d'équipes tout autour, et puis comme il y a les chefs d'État en personne, par ailleurs, il y a un dispositif de sécurité qui est phénoménal. Pour la petite histoire, c'est Matteo Renzi qui a voulu que ce sommet se passe en Sicile pour répondre à une pique qui lui avait été envoyée sur le fait qu'en Sicile, il n'y avait que la mafia. Mais effectivement, les préparations de ce G7 en Sicile sont presque caricaturales d'un certain point de vue, parce que on dépense beaucoup d'argent, on déploie un dispositif de sécurité phénoménal, la voiture de Donald Trump ne passe pas dans les rues de Taormine, et on donne effectivement ce sentiment, ce décalage très grand entre les élites dirigeantes réunies ensemble pour décider du sort de la planète et l'endroit où ça se passe, donc qui représente la population mondiale et qui est un support très éloigné de, finalement, ces élites qui gouvernent.
Voilà, on peut dire au fond que ce G7 en tant que tel, c'est une sorte de forum au fond consultatif, parce que même les décisions qu'il prend sont soumises aux aléas de l'économie mondiale.
Alors, c'est un forum consultatif, mais encore une fois, qui a, par le passé, montré une grande efficacité. Enfin, c'est le cœur de la diplomatie, c'est qu'il faut se parler. Et il ne faut pas forcément se parler dans des instances institutionnalisées, dans lesquelles il y a des postures et dans lesquelles il y a des jeux de rôle, mais dans des instances où finalement, l'ordre du jour n'étant pas établi, n'étant pas contraignant, on peut quand même aborder beaucoup de sujets avec beaucoup de franchise et déclencher des décisions, des accords...
Ou des dynamismes, peut-être.
Des dynamiques, lever des malentendus. Et donc, de ce point de vue-là, même si c'est un club avec tout ce que ça peut avoir de désagréable et tout ce que ça peut paraître, disons, d'éloigné d'une démocratie représentative et institutionnalisée, en fait, ces G7 ont une très grande efficacité, bien plus grande sur un certain nombre de sujets, par exemple, que les Nations Unies.
Donc, juste d'un mot, mais vraiment d'un mot, Xavier Timbaud, je rappelle que vous êtes économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques. S'il n'existait pas le G7, il faudrait l'inventer?
Alors, il faudrait probablement l'inventer. Bon, la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce qu'il faut faire tout le cirque qu'on y fait autour, ou est-ce qu'il faut utiliser des moyens plus modernes de communication pour avoir des forums plus efficaces, peut-être plus informelles et moins coûteuses? Ça, c'est une question qui se pose. Tout le décorum des G7, ou des G en général, est effectivement, voilà, a toujours un petit côté agaçant.
Merci beaucoup, Xavier Timbaud, franceculture.fr pour vous réécouter, pour vous télécharger.
Merci à vous, Thierry Garcin. De quoi sera-t-il question lundi?
Alors, c'est toujours de grands sujets en ce moment. C'est la visite du président russe à Paris pour une exposition sur Pierre Ier et à Versailles. Et ce sera, on centrera, je pense, sur les relations entre la Russie et la France.
Très bien. Alors, à lundi.
À lundi, avec le Eugène Berg, diplomate.
Très bien. Il est 6h55 sur France Culture.